Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 7 avril 2025, ou peut-être devrais-je dire le Black Monday lundi 7 avril 2025. Les financiers du monde entier s'attendaient à un début de semaine un peu plus calme. Le recul du week-end était censé apporter un peu de réflexion à tout le monde, histoire de se reconstruire, de prendre la distance. Mais c'était sans compter Trump et sans compter la psychologie de marché. En me levant à 3h du matin pour être sûr de ne rien rater, je tombe sur les premiers rapports de la nuit. C'est la panique. On reproche le fait qu'il n'y a pas eu d'arrangement sur les tarifs durant le week-end. Trump en rajoute une couche avec des mots dont il a le secret. Et le S&P 500 ouvrira direct en bear market. 38 ans plus tard, le Black Monday est encore une fois parmi nous. Pour être franc avec vous, ce matin, j'avais pour intention de revenir un peu sur ce qui s'était passé la semaine dernière, d'essayer de prendre les choses avec philosophie et se dire que c'était peut-être l'opportunité de profiter de faire les soldes. Je voulais revenir sur les chiffres de l'emploi qui étaient meilleurs que prévu vendredi dernier et je voulais aussi vous résumer le fait que Powell n'a rien apporté de plus, si ce n'est que pour l'instant, pour lui, il est important et urgent d'attendre. On dirait d'ailleurs qu'il applique la politique du Conseil fédéral helvétique. La discrétion à l'extrême. Jérôme Powell a tout de même ajouté que les hausses de tarifs vont être plus grandes que prévu et leurs effets aussi, plus d'inflation, moins de croissance. En gros, le patron de la Fed nous a tranquillement parlé de stagflation, puis il est reparti chez lui pour aller relire les mémoires de Paul Volcker, qui reste quand même le seul banquier central américain qui a dû faire face à une stagflation dans les années 70 et le seul banquier central qui a dû monter les taux à 20% pour calmer l'économie et coller une balle dans chaque genou à l'inflation pour qu'elle se calme. Mais en voyant les couleurs rouges de mon écran, j'ai compris que mon plan de vous raconter tranquillement ce qui s'était passé vendredi dernier n'allait pas suffire. Et allait même carrément être inutile puisque ce qui se passait en cette fin de nuit et de ce nouveau début de semaine n'avait rien à voir avec un lundi classique avec zéro volume où tout le monde s'emmerde en attendant de voir les vrais chiffres économiques de la semaine. En l'occurrence, cette fois, c'est les chiffres du CPI qui sortiront jeudi. Autant vous dire que les chiffres de l'inflation en ce lundi matin provoque à peu près autant d'intérêt que le score que Trump a fait au tournoi de golf auquel il a participé ce week-end. Non, nous sommes passés bien au-delà, puisque dès les premiers trades du futur américain en ce dimanche soir, ou en ce lundi matin selon les fuseaux horaires, nous étions de retour en 87, ce fameux lundi noir. On est en 87. Les marchés actions sont en pleine euphorie depuis 2 ans. Le Dow Jones a gagné plus de 40% entre janvier et août. Tout le monde est bullish à mort, mais sous la surface, il y a quelques fissures qui commencent à apparaître. Taux d'intérêt en hausse, crainte d'inflation, dollar sous pression, tension entre les USA et l'Allemagne sur les politiques monétaires et surtout beaucoup trop de trading automatisé pour l'époque. Le lundi 19 octobre 87, le Dow Jones perd 22,6% en une séance. C'est encore aujourd'hui la plus grosse chute en pourcent en un seul jour de toute l'histoire de Wall Street. Alors pourquoi ça a explosé ? Les balbutiements des programmes trading, des ventes automatiques déclenchées dès que certains seuils sont atteints, un effet domino incontrôlable, un effet panique, les investisseurs voient les machines vendre, donc ils vendent aussi, c'est le bordel total et personne ne comprend rien, effet mondial, Tokyo, Londres, Paris, tout le monde suit, le crash est global. Pourtant, il n'y avait aucune vraie nouvelle ce jour-là, juste un effet de panique auto-alimenté. Bizarrement, il n'y a pas eu de récession dans la foulée du crash de 87. Alan Greenspan, qui vient d'arriver à la Fed, intervient très vite. Il ouvre le chéquier, il rassure les marchés avec le fameux « la Fed agira si besoin ». Certains pensent d'ailleurs que c'est la naissance du fameux « put » de la Fed. Le marché mettra 2 ans avant de revenir au niveau d'avant-crash. En résumé, ce fut un crash brutal, sans raison fondamentale, déclenché par des algos primitifs et amplifié par la panique. Un choc mondial, mais une récession évitée grâce à une Fed réactive, un avertissement précoce sur les dangers du trading automatisé, qu'on n'a d'ailleurs pas vraiment écouté. Mais forcément, quand on a un environnement qui a la mémoire d'un poisson rouge, ça n'aide pas. Alors, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ça. Ça ne fait aucun sens, il n'y a aucune similitude. Nous avons appris de nos erreurs en inventant les circuit breakers qui se déclenchent à partir d'un certain seuil et qui ferment les bourses pour nous laisser réfléchir et que finalement, la seule chose qui est pareille, c'est le fait que les taux soient relativement élevés. Pas en hausse, mais on pourrait et on aimerait les voir plus bas. Ok, l'inflation est aussi un problème, comme en 87. Et cette fois, les USA ne sont pas fâchés avec l'Allemagne, mais juste avec le monde entier. Et puis, c'est aussi un lundi. Je voulais donc juste remettre un peu de contexte, histoire que l'on sache de quoi on parle, puisque l'on va inévitablement parler de lundi noir en ce lundi qui est plutôt très très rouge à l'instant où je vous parle. Cette nuit, lorsque les futurs américains ont ouvert, le S&P 500 était en baisse de près de 5%. Si on fait le total depuis l'annonce des tarifs mercredi dernier, nous étions à 14,5% de baisse sur l'indice américain. Depuis, ça ne fait que remonter. Mais là, à 4h23, nous sommes toujours en baisse de 2,65% sur le S&P 500. Grosso modo, si on ouvre en dessous des 4950, l'indice de référence sera en bear market. Trump est au pouvoir depuis 70 jours et nous sommes passés par de nouveaux records historiques. Et là, nous sommes 20% plus bas. La volatilité semble donc être le maître mot de la présidence de Trump, un peu comme il l'avait fait la première fois. La volatilité devrait atteindre les mêmes niveaux que lors de l'affaire du carry trade l'été passé, à savoir plus de 60%. Alors, vous me direz, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe pour que l'on panique autant alors que globalement, il ne s'est rien passé et qu'il n'y a pratiquement rien de neuf au niveau des tarifs douaniers? Eh bien justement, c'est pour ça. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est une des raisons qui a allumé le feu. L'absence de nouvelles au niveau des tarifs. Lorsque nous avons bouclé la semaine au fond du trou vendredi dernier, tout le monde s'attendait à voir des mouvements pendant le week-end et pas uniquement des réponses du berger à la bergère. Les Chinois avaient déjà répliqué vendredi, les Européens sont en train de préparer la réponse, mais il n'y a rien de neuf dans tout ça, rien de positif, si ce n'est que la guerre commerciale est en train de s'intensifier comme jamais. Non. Ce que voulaient les marchés, c'était des annonces comme quoi ça discutait et que certains pays étaient déjà prêts à venir négocier avec Donald à Washington. Mais rien, pas une photo, pas une carte postale, pas une demande de rendez-vous sur Calendly. La première bonne nouvelle, c'est les Japonais qui ont annoncé qu'ils étaient pratiquement déjà dans l'avion pour Washington parce qu'ils veulent trouver un deal. Mais cette annonce s'est produite il y a une heure à peine, juste après que le Nikkei ait ouvert en baisse de près de 9%, alors que la Chine semblait prête à plonger de 10% à l'ouverture et que les autorités de marché américaines rappelaient qu'à moins 7%, les marchés fermeraient pour 15 minutes, qu'à moins 13% également, et que si l'on atteignait les moins 20%, les marchés américains fermeraient pour la journée. La bonne nouvelle, c'est qu'on est certain que le record de 22,6% de baisse intraday atteint en 1987 ne sera pas battu aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tant de haine et de peur sur les bourses mondiales ce matin? La première raison, c'est que rien n'a bougé ce week-end et qu'a priori, le monde merveilleux de la finance attendait à du mouvement. Trump est allé jouer au golf tout le week-end et globalement, il ne s'est rien passé et ça n'a pas plu au marché. Mais ça n'était que le début. En début de soirée, alors que le président de tous les Américains retournait chez lui à la Maison-Blanche, il a déclaré, alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait du crash boursier en cours, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, depuis hier soir, on ne parle plus de correction, de bear market ou de sell-off, on parle de crash. C'est quand même bien plus rock'n'roll. Donc, alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait du crash boursier en cours, le président a répondu « Je ne veux pas que les marchés baissent, mais il faut parfois prendre des médicaments pour se soigner ». Ce qui sous-entend qu'il va peut-être falloir serrer les fesses un petit peu plus que 24 heures pour guérir l'économie américaine et la perception que les marchés en ont. C'est en tous les cas ce que les experts à Wall Street ont compris des paroles de Trump. Dans la foulée, il a également dit qu'il ne signerait pas le moindre deal avec la Chine tant que le problème du déficit commercial entre les deux pays ne serait pas réglé, ce qui justifiait probablement la tôle du marché chinois très tôt ce matin. À l'heure actuelle, le Hang Seng plonge de 9% et Shanghai recule de près de 6%. C'est le bain de sang, il n'y a pas d'autre terme. Pendant un moment, il y a même l'or qui est passé sous les 3000, juste avant qu'on se rappelle que c'est à peu près la seule valeur refuge qui nous reste. Et vu que le Bitcoin est passé sous les 80 000, il se traite actuellement à 78 000 $. Le pétrole est à 60 $ et personne ne voit le bon côté des choses. Avec le prix de l'essence qui va baisser, ça va bientôt coûter moins cher de rouler avec un V8 biturbo plutôt qu'avec une voiture électrique fabriquée par Elon Musk. Son côté que socialement parlant, c'est tellement moche de rouler en Tesla que le choix va s'imposer de lui-même. Bon, on est en train de se faire laminer dans les marchés, c'est la panique, le lundi noir, la volatilité s'envole, on va tous mourir, enfin pas tout de suite, je vous rassure, pour certains, Trump est en train de détruire l'économie mondiale et ce qu'il fait se rapproche de la folie furieuse, mais néanmoins, selon un sondage effectué sur X, 57% des Américains approuvent la stratégie de Trump. Je pense que le sondage a été fait parmi des Américains qui n'ont pas de portefeuille boursier, sinon j'imagine que la réponse serait un poil différente. Je ne prendrai pas position parce que pour être honnête, j'en ai aucune idée, la seule question qui se pose ce matin, c'est de savoir ce qui doit se passer pour que les choses se calment et que l'on revienne un peu à la raison. Il n'y a pas de solution miracle. Bill Ackman, hedge fund manager de profession, milliardaire par passion et fervent soutien de Trump, appelle le président à mettre ses tarifs sur pause pendant 90 jours, histoire de laisser le reste du monde venir négocier à Washington. Ça serait effectivement un début de solution qui pourrait soulager les marchés boursiers. On a besoin de voir les choses avancer pour ne pas continuer à croire que le couteau va continuer de tomber à coups de 6% par jour. On sait tous que les marchés offrent offre un support très solide au niveau des zéros et qu'il est peu probable que les indices commencent à traiter en négatif. Mais comme visiblement on a réussi à le faire sur le baril à l'époque, on n'a pas forcément envie d'aller vérifier. Mais autrement, l'autre question qui se pose est de savoir à quel moment il faudra venir remettre les pieds dans le marché. Et s'il faut le faire. Avec un peu de rationalité, on sait que ça finit toujours par remonter. Même le Japon a battu des records historiques après plus de 30 ans de disette. Il y a donc toujours des raisons d'espérer. Aujourd'hui, la panique dans laquelle nous sommes ressemble fortement à de la capitulation. Ce mot magique que l'on cherche lors de chaque correction boursière. Lorsque la volatilité explose, lorsque plus personne ne sait quoi faire et que tout le monde veut juste liquider toutes ses positions pour ne plus avoir besoin de subir cette couleur rouge qui fait mal aux yeux jour après jour. C'est cette zone-là, très précisément, que l'on va commencer à chercher. Une volatilité qui approche les 80%, des théories catastrophistes qui viennent de tous les côtés et les médias mainstream qui se foutent totalement de ce qui se passe sur les marchés boursiers le reste de l'année, mais qui se réveillent quand ils sentent l'odeur du sang. Oui, parce que c'est quand même plus vendeur quand tout va mal que quand tout va bien. Personnellement, je mesure le fond du trou lorsque la radio ou la télévision suisse me téléphone pour savoir ce que je pense de ce qui se passe. Ça a toujours plutôt pas mal fonctionné. Et en tout dernier ressort, je prends le taxi. Si le chauffeur a une opinion sur le crash boursier en cours, j'achète. Voilà. Et nous sommes donc en mode Black Monday et il n'y a pas une nouvelle macro qui a passé le filtre, pas une nouvelle tout court. Rien ne se passe nulle part dans le monde qui est plus digne d'intérêt que le crash du moment. Pourtant, cette semaine, il y aura quand même le CPI, mais peu importe le chiffre, tout le monde dira que c'est irrelevant. Étant donné ce qui se passe dans l'économie, et puis comme personne n'en parle, on notera qu'en fin de semaine, on aura les chiffres trimestriels des banques et que ça sera officiellement le début de la saison des résultats. Je sais bien que tout le monde s'en fout, mais quand même, JP Morgan, qui publiera ses chiffres le 11 avril, a tout de même perdu 25% depuis le 20 février. Alors je veux bien croire que les tarifs, c'est la merde, mais quand même, lors des chiffres du trimestre précédent, on nous disait que si on n'avait pas de bancaire, on était profondément débile, et là, 30% plus bas, on est quoi ? Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, on peut parler de tout ce qu'on veut, faire tous les scénarios qu'on veut. Il suffira d'une nouvelle comme quoi Xi Jinping prend l'avion pour aller à Washington, ou d'un moratoire annoncé de 30 jours pour les tarifs, pour que le vent change de direction à la vitesse de la lumière. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini de rire, mais une chose est sûre, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que si on est de retour en 87, j'ai de nouveau 16 ans. Oui, parce que j'étais déjà dans une banque en 87, et il y avait déjà des gens qui venaient réclamer leur argent au guichet en pleine panique. J'ai presque l'impression que la boucle est bouclée ce matin, pourtant c'est simplement un nouveau chapitre qui s'ouvre. À ce stade de la chronique, j'aimerais vous souhaiter un très bon lundi, un très bon début de semaine, mais je ne suis pas certain que ce soit très approprié aujourd'hui. Pour le moment, à 5h45, les futurs américains sont en baisse de 3,5%, Shanghai plonge de 6,5%, le Hang Seng se rétame de 11%, et le Japon est en baisse de 6,8%. Le Nikkei a perdu 23% depuis le 1er février et nous sommes de retour au même niveau qu'en pleine crise du carry trade, mais au moins, j'étais en vacances. En attendant, Nvidia devrait ouvrir en baisse de 9% et dorénavant, les marchés US ont effacé 13 000 milliards de market cap. Dire que dans ma vidéo du week-end, je parlais que de 11 000 milliards. Tout va trop vite. Bonne chance pour cette journée qui pourrait rester dans les annales. On notera quand même que selon le stock almanach depuis les années 50, il n'y a eu que 3 occasions où le S&P 500 a subi une baisse de plus de 10% sur 2 jours, octobre 87, novembre 2008 et mars 2020. Reste plus qu'à espérer qu'avril 2025 ne soit pas le prochain sur la liste. On se voit demain pour avoir la réponse.